Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Oberkampf, vivre pour entreprendre, c'est le titre d'un bel ouvrage que publient les éditions Télémac à l'occasion du bicentenaire de la mort de l'inventeur de la toile de Jouy. Franck Ferrand reçoit son auteur. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Son auteur et son descendant, puisqu'Étienne Mallet appartient à la famille du grand Oberkampf. Alors ce n'est pas seulement une station de métro Oberkampf, hein, c'est un génial inventeur, c'est un homme d'action, c'est un entrepreneur d'abord et avant tout, et on peut dire qu'Étienne Mallet a trouvé une façon élégante, charmante de raconter sa vie puisqu'il a imaginé son journal.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Alban qui voudrait savoir pourquoi les films sortent en salle le mercredi et pourquoi les militaires ajoutent le possessif « mon » devant certains grades, « mon commandant » ou « mon général ».
Si je comprends bien, Alban pose deux questions pour le prix d'une. Oui. Et bien on essaiera de répondre aux deux questions d'Alban. Pour le moment, nous avons rendez-vous à Jouy-en-Josas dans la manufacture des très belles toiles imprimées de Monsieur Oberkampf.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
En songeant à cette émission, je me demandais pourquoi Oberkampf était tellement sympathique. Est-ce du fait de sa tolérance? Est-ce parce que c'était un homme audacieux, discret, industrieux, ouvert, entreprenant? Sans doute pour toutes ces raisons à la fois. Il était en tout cas l'archétype du grand entrepreneur de la fin de l'Ancien Régime, de la période de la Révolution et de l'Empire. Il a d'ailleurs reçu des mains de Napoléon la Légion d'honneur en 1806, mais il avait commencé dans son activité dès le règne de Louis XV. Il faut vous dire qu'il était né au printemps 1738, je dis au printemps, oui, c'était le 11 juin 1738, qu'à Wiesenbach, dans le royaume de Württemberg, naît Christophe Philippe Oberkampf. Oberkampf, en allemand, ça veut dire au-dessus de la mêlée, d'une certaine manière. Eh bien, il saura, pendant toute sa vie, rester au-dessus de la mêlée. À quoi ressemble ce petit village de Wiesenbach? Il faut imaginer une très petite agglomération, quelque chose d'encore très rural, niché au creux d'une vallée. Il y a là une rivière qui sillonne entre les collines et qui permet, c'est très important cette rivière, car elle permet le travail de la toile. Le village, disons-le, a deux vocations, le travail de la terre, ça c'est bien évident, mais aussi celui du tissu. Il y a une dimension textile dans cette vallée, c'est fondamental. La famille Oberkampf travaille à la teinture depuis 3 générations et Christophe Philippe va être élevé dans le culte de ce labeur, de cette industrie au sens propre du mot, dans la religion protestante également. Ce n'est sûrement pas un hasard. Chez les Oberkampf, on lit la Bible tous les soirs. La mère est dévote, elle est discrète. Quant au père, comment le définir? Disons qu'il est plutôt versatile, qu'il est sans doute assez colérique et que pour le jeune homme, et d'une façon plus générale pour la famille, il est assez difficile à supporter. Christophe Philippe est un jeune homme volontaire, déterminé. C'est un garçon solide. La bonté, dit-on, émane de son visage. Son grand-père maternel était paysagiste, c'est lui qui lui a donné le goût de la nature, le sens de la couleur, tellement essentiel dans le métier qu'il va exercer, le sens des formes, du goût des... Vous savez, ces personnes qui sont capables d'observer les fleurs, d'observer les plantes, d'observer les animaux et de tirer la singularité de chaque forme. La teinture, vous l'aurez compris, est ici une histoire de famille. Il a 6 ans, notre Christophe, quand la famille déménage. Son père travaille dans une manufacture de teinture et d'impression d'étoffe à quelques kilomètres de Wiesenbach. Et 5 ans plus tard, il est appelé à la manufacture d'indienne de Riehiner et Iselin. On est alors là vraiment chez de très très grands facteurs. On est à Bâle. C'est là que le père va finir par se mettre à son compte en 1755. Le jeune Christophe Philippe met la main à la pâte. Je dirais plutôt d'ailleurs qu'il met les mains dans les bacs de teinture. Le soir venu, il s'exerce à la lumière des chandelles, au dessin, à la gravure. Il a peut-être compris que c'est là que se trouve l'essence même du métier. C'est là que tout réside. De son côté, le père, qui n'excelle pas dans la gestion des affaires, fait preuve d'un véritable talent. Il a sans doute donné les bons conseils à son fils, même si lui, par ailleurs, n'est pas un homme d'affaires. Il est trop dépensier. Il va finir par s'endetter. À 15 ans, Christophe Philippe est embauché en tant que graveur dans une manufacture de Mulhouse, la cour de Lorraine. Alors, Mulhouse, ça n'est pas un hasard du tout. Nous étions à Mulhouse l'autre jour à la Cité du Train et nous vous avons parlé de l'extraordinaire vocation de cette ville qui, ne l'oublions pas, pendant très longtemps était une toute petite république indépendante coincée entre le très vaste empire germanique, la Suisse bien entendu et la puissante France. Mulhouse s'est défendue, hein, entre parenthèses, jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1798. Elle a maintenu cette indépendance industrieuse. L'expérience, la toute première expérience de Christophe Philippe va tourner court. Au bout de 6 mois de dur labeur, une dispute éclate entre son patron et lui. Monsieur Dollfuss, propriétaire de la fabrique, l'accuse d'avoir détérioré une plaque de gravure. Oberkampf n'est pas d'accord. S'il avait commis l'erreur, sans doute l'admettrait-il. C'est même une certitude. Mais puisqu'il n'est pas coupable, il refuse d'admettre la faute. Il est blessé au plus profond. Il démissionne. Plus tard, son ancien patron, qui sera très admiratif de l'extraordinaire succès d'Oberkampf, dira « J'ai été trop vif avec ce jeune homme. J'aurais mieux fait de l'attacher à notre maison et de lui donner ma fille en mariage. » Ah oui, ça, on confirme, il aurait beaucoup mieux fait. Un édit royal du 24 octobre 1686, un édit qui à l'époque avait été signé par Louvois, qui succédait à Colbert comme surintendant des bâtiments, arts et manufactures, avait interdit, je cite, « d'imprimer des indiennes, d'importer, de fabriquer, de vendre et d'exporter des toiles de coton peintes aux Indes ou contrefaites dans le royaume ». Les indiennes, c'était ces imprimées, vous savez, avec des grands motifs de cachemire ou des grands motifs floraux sur des toiles de coton bon marché. Elles étaient importées d'Inde par la Compagnie des Indes orientales. Vous comprenez donc qu'il s'agissait de protéger les industries textiles françaises. Si on avait pu importer, notamment de Mulhouse, ces belles indiennes, évidemment, on peut dire que ça aurait été un drame pour l'industrie nationale française. Eh bien, malgré cette interdiction, il faut savoir que les indiennes font fureur à la cour, elles font fureur dans la bonne bourgeoisie, elles sont d'une manière générale devenues à la mode. On les trouve partout, dans la mode vestimentaire bien entendu, mais aussi et peut-être surtout dans l'ameublement, ce qui a développé toute une contrebande, tout un commerce interdit et parallèle. Les toiles sont produites en Suisse, en Hollande, en Angleterre, etc. D'ailleurs souvent par des Français qui sont partis au moment de la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Et un recruteur français, un certain monsieur Franz, va confier ceci à Oberkampf, je le cite: l'engouement pour les indiennes est sans limite, mon garçon, au point que les agents des douanes ont ordre d'arracher en pleine rue du corps des femmes les robes en indienne. La contrebande n'a jamais été aussi prospère, notamment celle venant de Suisse ou du Comtat Venaissin, domaine du pape. Voilà des propos qui ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd.
Jean-Sébastien Bach sur Europe 1, on écoutait Jésus que ma joie demeure. On vous retrouve Franck Ferrand pour la suite de votre récit sur Christophe Philippe Oberkampf.
Vous avez bien compris que quelque chose est en train de couver. Monsieur Franz l'a dit à Christophe Philippe, il est possible que cette prohibition imposée par le régime, imposée par la royauté française, finisse par être levée. C'est pour cela qu'il va partir, il va chercher à recruter de nouveaux talents hors des frontières. Il lui assure qu'un certain monsieur Cotin, qui est le directeur d'une manufacture située à Paris, serait prêt à l'embaucher lui-même à bon prix. Et là, Oberkampf voit sa chance, il accepte, il a 20 ans. Il faut vous dire qu'à l'époque, il ne parle pas un mot de français. Voilà ce que nous dit Étienne Mallet dans Oberkampf, vivre pour entreprendre. Il se met à la place, évidemment, de Christophe Philippe et il dit « je ». Le voyage est exténuant. Je marche longuement en empruntant les itinéraires conseillés par les habitués qui louent leurs bras à Paris. Lorsqu'il y a de la place disponible, je grimpe dans une diligence publique tirée par 8 chevaux. Elle est conduite par des postillons qui changent de monture tous les 20 kilomètres. Et nous allons ainsi de relais en relais. Pour aller plus vite et payer moins, il m'arrive de sauter dans les fourgons affectés aux courriers de la poste. Il n'y a pas de siège, on s'assoit et dort où l'on peut. Ils sont autorisés à rouler la nuit. Les routes sont semées d'embûches et d'ornières au point d'être impraticables. Souvent, on est alors contraint de traverser les champs de riverains. C'est en 1758, à l'automne 1758, l'arrivée à Paris. Alors bien sûr, pour Christophe Philippe, c'est une découverte totale. C'est la vie, l'activité, le mouvement, les immeubles, l'entassement, la promiscuité d'une grande ville avec toutes ses échoppes, bien entendu. Une vie de précipitation à laquelle il n'a jamais été habitué. Il rencontre ce fameux monsieur Cotin qu'on lui avait donc conseillé, qui est un homme accueillant, au visage rond. Il sera logé gracieusement et payé 24 livres par semaine pour les teintures auxquelles va s'ajouter d'ailleurs un petit supplément pour les gravures. Donc c'est une véritable rente pour lui qui va pouvoir se mettre à épargner une 30aine de livres par mois. C'est une somme qui n'est pas du tout négligeable. Oberkampf a le talent de son père, vous l'avez compris, mais à la grande différence qu'il n'a aucun des défauts de son père. Lui est économe, il se nourrit pour 18 sols par jour chez une vieille dame de la rue Mouffetard. On raconte que lorsque la fortune lui sourit finalement, il retourne voir la vieille femme pour la remercier et lui offrira de quoi vivre à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. Voilà l'état d'esprit, voilà l'espèce de morale qui sous-tend toute la vie d'Oberkampf et qui fait de lui, encore une fois, un peu plus qu'un entrepreneur, un homme de bien, disons-le. Alors à quoi ressemble-t-elle cette manufacture de Monsieur Cotin? Elle est divisée en deux. Il y a d'une part au Clos Païen près du Faubourg Saint-Marcel, une première manufacture, des ateliers, et puis d'autres ateliers à l'Arsenal. La fabrique de Monsieur Cotin est la seule qui échappe finalement à cet édit de Louvois. Les teinturiers qui officient là ne sont pas très soigneux. On y imprime des toiles en faux teint, de mauvaise qualité, qui déteignent, raconte Oberkampf. Il y aurait beaucoup à faire pour rendre cette production acceptable, pour lui donner une véritable qualité. Lui travaille au Clos Païen, je vous dis, c'est un des deux sites. Il veut faire la différence en produisant quelque chose de beau, en bon teint, comme on dit, c'est-à-dire selon la tradition en respectant toutes les étapes nécessaires, ce qui rendra la toile ensuite beaucoup moins vulnérable au moment des lavages, au moment des usages différents et qui la rend surtout beaucoup moins sensible à la lumière. En 1759, voilà ce que Christophe Philippe écrit à ses parents. « Je n'ai pas encore gâté une seule pièce et j'ai fait de très belles marchandises. » Il est plutôt content de lui, mais c'est normal, il travaille bien, il en est fier. « Faites en sorte de m'envoyer Fritz, qui est donc son frère, le plus tôt possible. Je pourrai le placer aussi, car il s'élève dans ce moment des fabriques de tous côtés où l'on a besoin de gens qui sachent quelque chose. » Il travaille tellement bien, ce garçon, et les étoffes qui sortent d'entre ses mains sont si remarquables qu'il y en a une qui finit sous les yeux de Madame de Pompadour et que la marquise, qui s'y connaît en qualité, repère l'étoffe. Oberkampf travaille, il travaille d'arrache-pied. Inutile de vous dire qu'à l'époque, on ne compte pas ses heures. Il se rend bientôt compte que son patron n'est pas l'honnêteté même. Du reste, il va rester plusieurs semaines sans payer. Et les primes qu'il devait toucher pour les gravures, parce qu'il faisait ses gravures en plus de son travail de teinte, ces primes n'arriveront jamais. Il se renseigne auprès des autres ouvriers. Alors les langues se délient un peu. Les gens finissent par parler et il découvre que le bonhomme est en vérité criblé de dettes, qu'il a déjà fait faillite par 2 fois dans le passé et que d'une façon générale sa réputation est épouvantable. Rue Mouffetard, on assure même que la manufacture est carrément au bord du précipice. Et dans le même temps, le bruit court que la levée de la prohibition approche à grands pas. Cette vieille loi qui date de Louis XIV, qui date de Louvois, va bientôt être abolie. Dans sa petite chambre qui jouxte l'atelier, Oberkampf se prend à rêver. Et si, après tout, il ouvrait lui-même sa propre manufacture.
très bel après-midi sur Europe 1. Vous écoutez Au cœur de l'histoire et nous attendons vos messages, vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. Franck Ferrand, au cœur de l'histoire de l'industriel Aubert Camp, l'inventeur de la toile de Jouy.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, avec vous Franck Ferrand et au cœur du destin de l'industriel Christophe-Philippe Auberkampf.
On en parlait depuis longtemps, de l'abolition de cette prohibition qui touchait les indiennes, les étoffes imprimées. Eh bien le 9 novembre 1759, la rumeur est confirmée. Un édit royal lève, je cite, les prohibitions de port, usage, commerce et fabrication d'indiennes. Réforme menée par quelqu'un qui a marqué l'industrie française à ses tout débuts, qui est peut-être le premier d'ailleurs à lui avoir donné de l'impulsion, le grand ministre Choiseul. Et derrière Choiseul, il faut peut-être voir la patte de Madame de Pompadour. On est en 1759, jamais la marquise n'a été si puissante. Deux mois plus tôt, le frère de Christophe-Philippe, Fritz, l'a rejoint à Paris. Alors évidemment que Oberkampf se garde bien d'aller le recommander chez Cotin, étant donné l'expérience qu'il a eue lui-même de ce bonhomme. Par chance, une nouvelle manufacture vient d'ouvrir, rue de Seine, Saint-Marcel. Celle-ci est dirigée par un certain Monsieur Tavannes. Monsieur Tavannes était un des anciens Suisses. Il était au contrôle général des finances. C'était un homme d'habitude et d'expérience. C'est grâce à cette position un peu privilégiée qu'il avait appris avant tout le monde que la prohibition allait être levée. Il a flairé le bon coup et tout de suite, il a monté sa manufacture. Il avait compris que ça allait être une réussite. Il embauche Fritz en tant que graveur. Tavannes s'occupe du financement et il laisse à l'aîné des Oberkampf le champ libre pour tout ce qui relève, on pourrait dire des motifs, pour tout ce qu'il y a d'artistique dans ce travail. À la fin de l'année, son contrat de 14 mois arrivé à son terme, Christophe-Philippe Oberkampf se retrouve libre. Il est maintenant dans un pays où l'on a le droit d'imprimer des indiennes. Eh bien, il est temps d'entreprendre. Seulement pour cela, il faut des fonds. Et vers qui va-t-il se tourner? Vers Tavannes, bien entendu, avec lequel il s'associe. Il faut bien que vous compreniez quelle est la répartition des rôles. Oberkampf est un visionnaire. Il réalise que, pour assurer le succès de son entreprise, il lui faut quitter Paris. Il a compris que Paris est un endroit compliqué. D'abord, l'espace risque de manquer rapidement. Et puis, s'il s'installe en périphérie, il pourrait bénéficier d'une main-d'œuvre un peu moins chère. C'est assez bien vu, ça, de sa part. Voilà ce que dit le contrat liant les Oberkampf à Tavannes. Je sous-signais Antoine Guerne de Tavannes, Suisse du roi au contrôle général des finances, à Versailles, promet au sieur Christophe-Philippe Oberkampf, fabricant d'indiennes d'Arau, canton de Berne en Suisse, et à son frère Frédéric, la moitié, j'ai bien dit, la moitié des profits que pourra donner la manufacture d'indiennes que je compte, avec son concours et talent, établir à Jouy, et de payer tous les trois mois au sieur Oberkampf 10 sols par chaque pièce qui sera fabriqué par la gravure des moules. Les fonds de la dite entreprise et généralement toutes les dépenses qu'elle exigera, comme aussi les frais d'ouvriers étant à ma charge. Faites à Versailles, etc., le 2 janvier 1760. Et voilà comment, en 1760 donc, s'installent à Jouy-en-Josas les frères Oberkampf. Jouy-en-Josas, c'est pas mal trouvé d'ailleurs, parce que non seulement on n'est plus dans Paris, mais on est tout près de Versailles, où se trouve la cour, et l'on est tout près de la Bièvre, bien entendu, car n'oubliez pas qu'il faut de l'eau pour ces manufactures textiles. Oberkampf est séduit par le lieu. Sans doute que les collines lui rappellent les collines verdoyantes de son enfance. On ne compte dans ce village que quelques maisons groupées autour de l'église et dominées par le château de Jouy, qui est le château du marquis de Beuvron. C'est Christophe-Philippe qui loue la petite maison du pont de pierre. Elle est située tout à fait au bord de la rivière. Elle donne également accès à un champ où il pourra étendre ses toiles, car il faut bien faire sécher tout cela, évidemment. Par manque de place, il installe la chaudière à l'extérieur, dans la cour. Et le 1er mai 1760, Oberkampf va imprimer sa première toile à Jouy. On peut dire à partir de ce moment-là que cette manufacture, appelée à une si grande fortune, on peut dire que cette manufacture qui un jour deviendra historique est lancée. On est au printemps 1760 donc. Alors, Ça se passe pas aussi facilement que ça, bien entendu. Pour un étranger protestant, ne l'oubliez pas, aller s'intégrer dans un petit village des confins de Versailles, ça n'est pas très facile sous le règne de Louis XV. Il faut affronter l'hostilité d'une partie des villageois, il faut aussi l'hostilité aussi du curé de l'église de Saint-Martin, qui lui interdit de travailler le dimanche, bien entendu. Le marquis de Beuvron se montre lui aussi très méfiant à l'égard du nouveau venu. Il faut trouver des ouvriers, des clients au plus vite pour faire tourner cette entreprise. Au bout de 2 mois, Christophe Philippe peut néanmoins se permettre d'embaucher 2 imprimeurs, ce qui va quand même le soulager un peu. Ça fait pour lui, il se sent quand même un peu épaulé. Et dans le même temps, on peut dire que l'on est en train de compter chaque sol, car les ressources financières de Tavannes s'amenuisent. On cherche de nouveaux actionnaires. Évidemment, il y a beaucoup d'aigres fins qui rôdent autour de la nouvelle entreprise. Ils sont tous plus malhonnêtes les uns que les autres. Mais néanmoins, bon an mal an, cette petite entreprise débutante va asseoir sa réputation. En un an, dès 1761, donc, la manufacture aura produit 3600 pièces, ce qui est tout à fait considérable pour un si jeune établissement. On aurait sans doute pu en produire davantage encore s'il y avait eu suffisamment de matières premières, d'un côté suffisamment de main-d'œuvre également. En tout cas, ce n'est pas la clientèle qui manque, ça vous l'aurez compris, la demande est colossale, au point que dès 1763, on agrandisse la manufacture, un grand hangar pour la fabrication, pour le stockage. Dans le même temps, les entreprises concurrentes sont en train de fleurir à Paris, à Sèvres, en Normandie. C'est une épopée industrielle qui commence. Dans cette épopée, on peut dire que les Oberkampf vont jouer le premier rôle. Bonjour Étienne Mallet.
Bonjour.
Vous dites « je ». En faisant parler Christophe Oberkampf, il faut dire que vous êtes son arrière-arrière-arrière-petit-fils. Alors vous en avez tout à fait la légitimité, tout à fait le droit.
Je ne sais pas. C'est une manière pour moi d'être plus près de l'histoire, de la vraie histoire.
Et c'est une manière pour nous de la vivre de plus près. Si vous le voulez, dans un instant, nous allons revenir sur ses débuts, mais surtout sur l'extraordinaire succès de votre ancêtre.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Christophe-Philippe Oberkampf est au cœur de l'histoire et vous recevez Franck Ferrand, son 4e arrière-petit-fils Étienne Mallet. Il est le président de l'association des Amis du Musée de la Toile de Jouy, auteur d'Oberkampf, Vivre pour entreprendre, journal de l'inventeur de la Toile de Jouy qui vient de paraître aux éditions Télémac.
Quelles qu'aient pu être les qualités de cet Oberkampf, il faut dire quand même que pour un protestant du Württemberg, ça n'était pas très facile de lancer une entreprise dans la France de Louis XV. Étienne Mallet.
C'était très difficile. Non seulement il était impie, il était étranger en plus. Il n'a pas été naturalisé avant l'âge de 30 ans, donc à peu près 10 ans après son arrivée à Jouy en Lozas, par Louis XV encore. Donc il était un roturier, donc il avait vraiment...
Et puis il y a la barrière de la langue, la fameuse barrière de la langue.
Alors il s'est assez vite mis à la langue française, heureusement pour lui. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une personnalité, une volonté de faire pour surmonter les obstacles.
On est à la fin du règne de Louis XV, dans une période relativement prospère, il faut bien le dire. On est aussi, très bientôt, puisque le règne de Louis XVI va commencer quelques années plus tard, on est dans une période où les premières grandes manufactures s'imposent en France. On est en train de voir naître ce qui sera plus tard l'industrie. C'est tout nouveau, ça, bien entendu.
C'est complètement nouveau. Et effectivement, la manufacture de Jouy-en-Josas, qui va devenir d'ailleurs assez rapidement une manufacture avec le label de manufacture royale, préfigure la grande industrie française qui va se déployer au cours du 19e siècle. Et c'est devenu, à l'époque, le fleuron, je dirais, de la pré-industrie en France.
Alors, il faut dire que les circonstances ont servi votre grand-grand-papa, si je puis dire. Parce que, évidemment, que la levée de la prohibition a été une occasion phénoménal, totalement inespéré. Je rappelle de quoi il s'agissait. Pour favoriser les importations directes de la Compagnie des Indes orientales, on avait interdit et l'importation des indiennes de contrefaçon et la fabrication de ces indiennes en France même. C'est-à-dire que seules les indiennes qui venaient des Indes, si je puis dire, et qui passaient par la Compagnie, pouvait être vendu en France. Alors, évidemment, on avait vu qu'un certain nombre de marchés parallèles s'étaient établis. Mais à partir de 1759, c'est formidable, on a le droit. C'est tout à fait autorisé de fabriquer des indiennes. Quel est le procédé de fabrication? Vous pouvez nous expliquer en deux mots comment on faisait?
En deux mots, l'impression de la toile de Jouy ou de n'importe quelle toile imprimée est un processus pas du tout simple. D'abord, il faut savoir qu'il y a pratiquement plus de 11 différentes étapes à franchir avant de pouvoir avoir une toile jolie à regarder. Il y a ce qu'on appelle évidemment le dessin, qui est la première étape. Il y a ce qu'on appelle la gravure, car il faut graver. Ensuite, il faut débarrasser les toiles brutes de toutes leurs imperfections. Il y a ce qu'on appelle le bousage, qui est en quelque sorte de mettre de la bouse de vache, qui est une tradition très ancestrale mais méconnue. Pourquoi ? Parce que la bouse de vache permettait de faire ressortir les couleurs, curieusement.
Et sans, c'est sans une sorte de révélateur, en fait.
Une sorte de révélateur. Après, il y avait le lissage. Bref, un processus beaucoup plus long qu'on l'imagine et qui pouvait durer plusieurs mois. Car il y avait des procédures de séchage, de trempage, qui était là aussi tout un art.
Alors évidemment, nous sommes tellement habitués, nous, aux étoffes imprimées, que ça nous paraît assez naturel. Et on se dit, oui, la toile de Jouy, je vois ce que c'est. Ce sont les petites bergeries, là, les petites scènes d'amour sous les arbres, et les petites scènes pastorales du XVIIIe siècle, en rouge ou en bleu, dans les alcôves des maisons de campagne. Mais ce n'est pas ça du tout ce dont on est en train de parler. On est en train de parler là de l'invention d'un tissu qui n'est plus ni uni ni brodé. Parce qu'avant, il y avait deux possibilités. Ou bien vous aviez un tissu qui était parfaitement uni. C'est d'ailleurs ce que portait 99% de la population, il faut le dire. Et d'ailleurs, quand on avait la chance d'avoir un tissu de couleur, c'était déjà quelque chose. Parce que bien souvent, on avait des tissus qui étaient brun, gris ou noir, tout simplement. Et pour ceux qui étaient les plus fortunés, on pouvait broder des motifs sur ce tissu. Mais ça, c'était un travail de couture, de broderie extrêmement raffiné et complexe. Là, d'un seul coup, on va imprimer de l'étoffe comme on imprime le papier et l'on va avoir un motif qui s'inscrit dans le tissu et qui va totalement révolutionner la mode et l'apparence. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut avoir des fleurs, des feuilles, des perroquets, que sais-je, sur son habit, aussi sur les tissus d'ameublement, c'est-à-dire effectivement pour couvrir les cimaises, pour habiller les fenêtres avec des rideaux, etc., pour faire des couvre-lits, que sais-je. C'est tout l'environnement de nos ancêtres qui, en quelques années, est révolutionné.
Absolument. D'ailleurs, la production principale ne sont pas les toiles à personnages, mais ce que l'on appelait, ce que l'on appelle toujours, les Perses ou les Indiennes inspirées des motifs de l'Inde, qui sont la première inspiration et l'inspiration majeure des toiles de Jouy, faites, comme vous le disiez, de fleurs exotiques, d'animaux étranges, de couleurs extrêmement fortes
à l'indienne,
et diverses,
si l'on peut dire.
À l'indienne. Et ce sont ces motifs-là qui sont souvent très beaux et qui continuent d'ailleurs d'inspirer les créateurs, les stylistes, les décorateurs.
Alors ça suppose trois très grands talents, si je puis dire. Un talent de dessin, d'abord, parce qu'il faut les imaginer, tous ces motifs. Il faut les dessiner et ensuite les reproduire, bien entendu. Ensuite, un talent de teinte et de coloriste, car ce qui va faire la célébrité des toiles de Jouy, c'est la splendeur de leur coloris. Quand nous avions fait ensemble une émission sur place, au musée de la toile de Jouy, nous avions pu voir un certain nombre d'exemplaires de ces somptueuses étoffes. Et puis, il y a aussi, ne l'oublions pas quand même, un talent technique, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit précis, que l'impression ne bave pas et qu'elle résiste au temps et au lavage, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions pour obtenir une étoffe de qualité.
C'est bien pour ça, si vous voulez, que Oberkampf est assez génial, parce que c'est un entrepreneur qui a réussi à marier les techniques innovantes à l'époque avec l'art. Et il a, en utilisant les dernières techniques, en faisant appel à des chimistes fort connus à l'époque, les Berthollet, les Chaptal, les Laplace, il a réussi à mettre en œuvre des couleurs extrêmement variées à partir de procédés naturels. Au départ, il faut savoir que pour arriver aux teintes de l'arc-en-ciel, il faut plus de 34 différentes plantes ou minéraux. Alors après, c'est au fil des ans, cela s'est simplifié puisque la chimie s'y est introduite. Mais au départ, quand Oberkampf a commencé au XVIIIe siècle, c'était ça qu'il fallait faire.
Et alors on imprime évidemment toutes ces couleurs passage après passage. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de les imprimer en même temps. Il faut laisser sécher entre-temps. Enfin, c'est tout un travail considérable.
Il y a par une planche, par impression, une couleur. Autant de planches ou de rouleaux, quand il s'agit des rouleaux en cuivre, par couleur. Donc c'est un processus extrêmement long et sophistiqué.
Alors vous nous racontez ces différentes étapes, hein, le dessin, la gravure, l'empreinte, le blanchiment et lavage, le mordançage. Qu'est-ce que c'est le mordançage ?
C'est pour faire révéler les couleurs. Mm-hmm. C'est une manière de que les couleurs deviennent chatoyantes alors qu'elles sont trop ternes.
Alors le fameux bousage dont vous parliez, le garançage, le séchage, de nouveau un blanchiment et l'impression. C'est un travail qui emploie une importante main-d'œuvre. Il fallait la trouver cette main-d'œuvre. Dans la campagne de Jouy-en-Josas, ça ne devait pas être évident.
C'était essentiellement des gens qui venaient de la campagne de Jouy-en-Josas, plus ou moins vu de façon plus ou moins élargie, des gens qui étaient des paysans et qui deviennent des gens très fidèles à la manufacture, qui sont très attachés au lieu, parce que, comme on le sait, Oberkampf était un patron social et même en avance sur son temps.
Ah mais ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que, alors qu'on est à la naissance même de l'industrie, on est d'emblée en présence d'un personnage intéressé par les questions sociales qui gère son entreprise de manière, ce qu'on appellera plus tard, 60, 70 ans plus tard, de manière paternaliste, mais au meilleur sens du mot.
Absolument. Comme le dit Eric Orsenna dans sa préface de mon livre, Oberkampf est un entrepreneur moderne. Pourquoi moderne ? Parce que d'abord, il a l'esprit d'entreprise chevillé au corps. C'est sa raison de vivre. D'où mon titre « Vivre pour entreprendre », il est social. Il comprend que l'économie toute seule doit être accompagnée du social. Et il le fait alors qu'à l'époque, ça ne venait à l'esprit de personne. Et enfin, il est créatif. Il sait marier la création de l'art et de la technique. Et ça, je crois que ce sont trois valeurs modernes, actuelles. C'est ce que souligne Eric Orsenna.
Oui, c'est ce qui nous le rend si proche, disons. Je suis en train de le feuilleter, ce très beau livre qui est édité par Télémaque. Et quand je dis édité, là, le mot n'est pas trop fort. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un texte illustré. Il y a une maquette à chaque page. C'est très raffiné, très bien fait. On est dans la toile de Jouy, on est dans l'inspiration de Jouy, avec bien sûr des petites scènes pastorales, avec des motifs de couleurs extraordinairement vives, avec aussi ces scènes. Et ça, ça va être peut-être le grand apport d'Oberkampf à l'industrie du textile imprimé, ces véritables scènes qui racontent des histoires. On voit des personnes s'envoler en montgolfière, on voit des scènes d'amour, il y a des personnages. À partir d'un certain moment, on peut presque dire que l'étoffe se met à nous raconter quelque chose. On y vient dans un instant, si vous le voulez bien, Étienne Manet.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le duo des fleurs, extrait de l'Acmé de Léo Delibes sur Europe 1. Au cœur du destin de l'industriel Oberkampf, avec vous Franck Ferrand et votre invité, le quatrième arrière-petit-fils d'Oberkampf, auteur de l'ouvrage Oberkampf, vivre pour entreprendre aux éditions Télémaque.
Étienne Mallet, vous êtes donc le descendant de ce Christophe Philippe Oberkampf qui a inventé, qui a créé la toile de Jouy. Et encore une fois, j'insiste parce qu'on a parfois une vision un peu simplifiée de la toile de Jouy, hein, de toujours une étoffe blanche imprimée bleue ou rouge. Ça n'est pas ça la toile de Jouy. Ce sont toutes sortes de motifs imprimés, des couleurs les plus chatoyantes qu'on puisse imaginer.
30 000 motifs.
Et l'invention du motif, voilà, 30 000 dites-vous.
30 000 motifs différents.
Mais qui les dessinait ?
Ils sont sortis de la manufacture de la toile de Jouy.
Qui les dessinait, ces motifs ?
Alors, il y avait une armée, n'est pas le mot, parce qu'ils étaient seulement quelques-uns, 5 ou 6 dessinateurs.
Mm-hmm. Dont certains célèbres, hein, quand même.
Dont certains très célèbres, comme le plus célèbre s'appelle Jean-Baptiste Huette. Oui. Il y avait Hippolyte Lebas, Horace Vernet.
De la singerie de Chantilly. Hein.
Voilà. Il y avait même une femme qui était plutôt spécialiste de tout ce qui était bouquet floral et fleurs, Mademoiselle Jouannon. Mm-hmm. Et donc, il y avait tous ces peintres, dessinateurs à demeure ou qui restaient chez eux et qui étaient en dialogue permanent avec Oberkampf pour être sûr que leurs dessins à la fois correspondaient au goût du jour, très important pour Oberkampf, collé au goût du jour, et en même temps aux impératifs techniques, car un dessin doit pouvoir être imprimé. Et donc, il faut que les contours soient suffisamment précis, pas trop anguleux, de manière à ce que ça colle au procédé d'imprimerie.
Et bien sûr, tout ça demande une technicité folle, beaucoup de précision, beaucoup de rigueur. C'était quand même, pardonnez-moi, est-ce que j'ose dire que ça n'était pas un rigolo, votre ancêtre, quand même? Il était très, très rigoureux.
Je pense qu'il était très rigoureux. Chez lui émanait une autorité naturelle. Donc il était rigoureux, mais pas du tout revêche. Et comme vous l'avez dit, très justement, il y avait de la bonté qui émanait de son regard.
Il avait souffert du caractère impossible de son père. Il ne le reproduisait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et s'il était très attentif au confort de ses employés, il l'était plus encore à celui des membres de sa famille. C'était un très bon père de famille.
Oui, il a toujours venu en aide à sa famille. Il a fait venir pour travailler à Jouy-en-Josas les enfants de sa sœur, qui ont été d'une grande aide d'ailleurs, dont l'un d'entre eux s'appelle Samuel Widmer, qui est devenu un chimiste renommé. Et c'est quelqu'un qui avait le sens des autres, fortement. Et il disait toujours que pour lui, entreprendre, c'était entreprendre avec les autres, pour les autres. Et ça, c'était une sorte, on dirait aujourd'hui que c'était un patron éthique.
Voilà.
À l'époque, évidemment, c'était des phrases et des mots qui n'étaient pas utilisés.
Non, bien sûr. Sa femme était un petit peu en marge, si je puis dire. Est-ce qu'elle participe véritablement à l'expansion de l'entreprise Oberkampf?
Alors, la réponse est oui, car elle a joué un rôle important dans l'accueil des visiteurs, souvent de marque, de la manufacture d'Oberkampf. Et ces visiteurs de marque étaient aussi bien les ministres des rois, Turgot, Choiseul, etc., que des révolutionnaires. Car Oberkampf était quelqu'un qui était avant tout au service de son entreprise et qui acceptait et dialoguait et parlait avec tous les régimes.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est de voir la clientèle de la manufacture. Sous le règne de Louis XVI, tout ce qu'il y a de plus brillant dans le royaume se doit de porter d'une manière ou d'une autre de la toile de Jouy. C'est un succès phénoménal, c'est un succès de mode.
C'est un grand succès de mode. Et probablement que la proximité de la manufacture, proximité de Versailles, a évidemment beaucoup contribué à cet engouement qui était déjà sous-jacent depuis de nombreuses années, mais qui a explosé effectivement sous le règne de Louis XVI.
On a vu Marie-Antoinette et ses enfants venir rendre visite à Madame Oberkampf.
Absolument, et on a vu à ce moment-là Madame Oberkampf, dont le prénom était Elisabeth, se vêtir d'une robe somptueuse, qui va d'ailleurs être exposée au musée de la Toile de Jouy au mois de septembre prochain.
Ah oui, vous l'avez
toujours
cette robe?
Nous ne l'avons plus. Elle est aujourd'hui dans un musée japonais, à Kyoto, mais pour l'occasion, puisqu'il va y avoir une grande exposition internationale, le musée a aimablement prêté cette magnifique robe.
Je me rappelle avoir raconté l'histoire d'Abraham Louis Breguet, le grand horloger, et montré qu'après avoir été si proche de la cour royale, il avait par ailleurs été un grand révolutionnaire et qu'il s'était fait parfaitement accepter dans les rangs des révolutionnaires, avant que ça ne tourne mal, évidemment. Qu'en a-t-il été d'Oberkampf?
Alors, Oberkampf était séduit par les idées révolutionnaires.
Comme tous les entrepreneurs, on peut dire. Hein.
Et par la philosophie des Lumières. Nous sommes à l'époque de la philosophie des Lumières. D'ailleurs, il avait appelé ses enfants Émile et Émilie, du nom de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Donc, Oberkampf était séduit par les idées révolutionnaires. Il assistait lui-même aux séances des États généraux à Versailles, et il invitait à sa table des représentants du tiers-État. Il était quelqu'un de très ouvert, et il pensait, certainement à juste titre, en tout cas on peut le dire avec le recul, qu'il fallait que la France évolue, et que la monarchie absolue, complètement bloquée et non réformée, n'était pas possible. Et donc il a vraiment œuvré, quelquefois d'ailleurs en complicité avec les ministres même de Louis XVI. Il était un ami de Turgot.
Par exemple, évidemment.
Et de Necker.
Il y avait de plus éclairé dans le conseil.
Et de Necker. Necker qui venait souvent...
Qui partageait des origines quasiment avec lui.
En plus. Absolument. Donc si vous voulez, les idées révolutionnaires qui ont eu leurs excès, que Oberkampf a essayé de contrôler au maximum, puisqu'il raconte lui-même comment il a évité que, par exemple, l'église de Jouy-en-Josas soit trop pillée, ou qui est des excès de tout genre, et il a tout fait pour les éviter. Mais n'empêche qu'il était acquis aux idées révolutionnaires.
Oui. Cette révolution va céder peu à peu la place au consulat et à l'Empire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir servi la monarchie, les différents régimes révolutionnaires, on va voir Oberkampf très bien vu par le premier consul, même par l'empereur.
Absolument, qui est venu deux fois visiter la manufacture et qui était très admiratif devant la réussite de l'entreprise manufacture de toiles de Jouy et qui, effectivement, à cette occasion-là, lui a remis sa propre Légion d'honneur et surtout qui a établi un dialogue avec l'entrepreneur, qui l'a fait venir dans son château de Saint-Cloud où il parlait économie, comme on consultait un expert en économie, à une époque où l'économie était en train de décoller en France, un peu en retard par rapport à l'Angleterre, mais elle décollait. Et à l'époque où la France était en conflit ouvert avec l'Angleterre. Et là, d'ailleurs, il y a des dialogues très intéressants où, manifestement, Oberkampf n'est pas complètement en accord avec Napoléon, parce que Napoléon avait une vision militaire, plus qu'économie et conquérante. Et Oberkampf avait une vision économique et il trouvait que, par exemple, le blocus continental qui interdisait l'importation et les échanges commerciaux était une erreur. Et il le disait à Oberkampf, qui évidemment l'envoyait...
Il le disait à Napoléon, oui, en l'occurrence.
Il le disait, excusez-moi, à Napoléon.
Et c'est intéressant parce que plus vous en parlez, plus on sent qu'on avait affaire là à un homme bon, sain. C'est presque un modèle, finalement. C'est un modèle d'entrepreneur que vous décrivez. Et ça n'est pas une hagiographie, puisque tous les témoignages, tous les éléments, et bien entendu la preuve des faits, vont dans le même sens.
Pour moi, il est un modèle de l'entrepreneur moderne. Mmh. Si les entrepreneurs d'aujourd'hui s'inspiraient de lui, je pense qu'il y aurait davantage de réussite.
À bon entendeur, salut. Comment en finit-il ? Généralement, les gens qui ont très bien vécu savent aussi tirer leur révérence. Est-ce qu'il est mort dignement ?
Alors, il est mort très dignement, sans souffrance, d'après ses proches. Il a été très affecté par l'occupation du pays.
Mmh. Et 1814 et 1815, là.
1814-1815, donc qui était envahi par la coalition anti-Napoléon, qui comportait donc principalement les Russes et les Prussiens, mmh, qui ont occupé Jouy-en-Josas, et qu'il a essayé, il a défendu mordicus, bec et ongle, évidemment, la manufacture, et évité qu'il y ait des pillages. Il n'a pas pu l'éviter partout, mais il l'a évité à Jouy-en-Josas. Et il a été très blessé quand il a fallu qu'il arrête la fabrication de l'impression, et que quelques ateliers étaient obligés de fermer. Et là, il a dit « ce spectacle me tue ». Et ce qui n'était jamais arrivé, y compris pendant la période révolutionnaire, y compris pendant la terreur, est arrivé pendant l'occupation prussienne.
Ça a été terrible. Ça,
et ça, ça l'a beaucoup affecté, et il est mort. On ne peut pas dire que ce soit une conséquence directe, mais enfin,
le contexte a dû jouer. Oui.
Le calendrier montre qu'il est mort quelques mois après.
Bien sûr. C'est son fils, Émile, qui va prendre la tête de la manufacture à sa mort. Émile cédera ensuite en 1822 l'entreprise à Jacques-Juste Barbet, qui venait de Rouen, lui, qui avait déjà un très gros succès d'ailleurs dans sa propre manufacture. Et Jouy-en-Josas fermera, enfin la manufacture des étoffes fermera ses portes après 83 ans d'activité, donc en 1843 sous la monarchie de Juillet.
Absolument.
Que s'est-il passé ?
Je pense que, pour moi, deux explications. La première, c'est que les successeurs d'Oberkampf, je ne parle pas seulement de son fils, mais de l'ensemble de ses successeurs, n'avaient pas la personnalité de Christophe Philippe. Et la deuxième raison, c'est que la conjoncture avait complètement changé. Oberkampf et la toile de Jouy fabriquaient des produits haut de gamme, de qualité. Et il a été soumis à une concurrence de produits beaucoup moins coûteux. Et au lieu de s'adapter, je pense que les successeurs n'ont pas su s'adapter. Et il a été dépassé par des produits moins chers et probablement de moins bonne qualité, mais qui se vendaient mieux.
Mais oui, ça c'était... Il aurait presque fallu qu'il leur donne des conseils pour l'avenir.
Alors je pense que s'il avait été là, effectivement, ça ne se serait pas passé comme ça.
Il existe aujourd'hui un musée, il faut dire, depuis 1977. Nous étions allés, nous avions fait une émission ensemble en direct de ce musée. C'est un endroit formidable et qu'il faut visiter. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Étienne Mallet.
Certainement pas. Et je vais d'autant moins vous dire le contraire que cette année 2015, qui est une année commémorative du bicentenaire de la mort d'Oberkampf, est retenue à ce titre comme commémoration nationale par les autorités publiques.
C'est une des commémorations officielles, oui.
Commémoration officielle, et que toute l'année va être ponctuée de manifestations les plus diverses, conférences, colloques, expositions aussi bien d'art contemporain que de toiles de Jouy, et que le musée va être, pendant l'année, et déjà ça a commencé, un lieu de rayonnement à la fois pour la toile de Jouy et pour la meilleure connaissance de ce personnage hors du commun qu'était Oberkampf.
La prochaine des expositions, elle ouvre là le 5 mai, ça s'appellera « Le tapis moghol, une tradition réinventée » donc au musée de la toile de Jouy, puis des expos d'art contemporain, des conférences importantes. Il y en a une là le 5 mars par Patrick Frey, s'il vous plaît. Il y en aura une bientôt à l'atelier sur les vraies et fausses toiles de Jouy, etc. Toutes sortes de manifestations donc à Jouy-en-Josas. Et puis, bien sûr, cet ouvrage d'Étienne Mallet, Oberkampf, vivre pour entreprendre, journal de l'inventeur de la toile de Jouy. C'est magnifiquement édité, c'est raconté de façon lumineuse par un descendant d'Oberkampf lui-même, et c'est aux éditions Télémac. Merci beaucoup.
On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, et vous répondrez aux deux questions d'Alban sur les films qui sortent en salle le mercredi et sur le possessif « mon » devant certains grades militaires.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et notre auditeur Alban a deux questions à vous poser aujourd'hui, Franck Ferrand. Pourquoi les films sortent en salle le mercredi et pourquoi les militaires ajoutent le possessif « mon » devant certains grades comme « mon commandant » ?
Alors donc deux questions, on va commencer par répondre à la première. D'abord, le jour de sortie des films, c'est un sujet qui vous intéresse, ça, vous Étienne Mallet, vous qui êtes producteur de cinéma.
Bien sûr.
Alors pourquoi les films sortent-ils le mercredi ? D'abord, ce n'est pas du tout une règle, c'est simplement un usage. Les films sortent le mercredi depuis quand même maintenant de nombreuses années, mais pendant très longtemps, les films sortaient le vendredi. Ils sortaient le vendredi tout simplement parce que c'était la veille du week-end. Et à partir du moment où le samedi est devenu un jour chômé, alors ça commence ça juste avant la Seconde Guerre mondiale en 1937, ça ne s'est répandu que beaucoup plus tard, on a décidé de décaler la sortie des films au jeudi pour laisser aux gens le temps de se préparer pour aller au cinéma la grande soirée qui était donc la soirée du jeudi. Faut pas oublier que le jeudi, pendant très longtemps, c'était le jour de relâche des écoles. Et donc les enfants venaient aussi le jeudi. Et ça, c'est un bon public, les enfants, parce que évidemment, souvent, les enfants, ils viennent, ils amènent soit la nounou, soit les parents. Donc c'est très intéressant, ça, pour les exploitants. Et petit à petit, on s'est mis à sortir les films le jeudi par référence au jour chômé des écoles. Et quand on est passé à la relâche du mercredi, donc ça, c'est au début des années 1970, eh bien, les exploitants ont accompagné le mouvement et on s'est mis à faire sortir les films le mercredi. Je vous signale quand même que dans la plupart des pays, je pense aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, etc., les films continuent de sortir essentiellement le vendredi. C'est important le jour de sortie parce que c'est là que s'effectue le bouche à oreille et l'on dit aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord Étienne Mallet, que en fonction du bouche à oreille du jour de sortie, le film va marcher ou ne marchera pas en fait. Hein.
C'est essentiel.
Tout est là d'une certaine manière. Alors l'autre question, alors là ça appelle une réponse plus rapide, pourquoi mon colonel, mon capitaine, mon commandant, que sais-je, ben ça c'est simplement une abréviation de monsieur. Notamment lorsqu'on faisait les rapports, hein, les rapports écrits à l'armée, on écrivait monsieur le capitaine, monsieur le colonel, etc. Puis on s'est mis à écrire mons capitaine, mons colonel, et puis c'est devenu mon capitaine, mon colonel. C'est la raison pour laquelle on ne dit pas ma capitaine et ma colonel pour les femmes, on dit simplement capitaine ou colonel, ou général. Marion Ruggieri est avec nous. Bonjour Marion.
Bonjour Franck. Pourquoi est-ce que l'on est de plus en plus nombreux à aimer la BD filles, garçons, petits, grands ? Eh bien, pour en parler aujourd'hui, pas n'importe qui, la star de la BD, Joanne Sfar, est avec nous, ainsi que la dessinatrice qui monte avec un très joli prénom, Marion Montaigne.
Merci beaucoup Marion. Eh bien, nous nous retrouvons lundi, chère Ombline.
Merci Franck. À lundi.